Il y a un signe qui trompe pas. Toutes ces bêtes sentent la pisse. Et plus fort. Déjà, vous passez devant son portail, ça vous prend le museau, là. Non, c'est pas du boulot.
Moi, je suis dans l'agriculture, je suis pas parfumeur, moi.
Libre Radio, la radio qui émet et qui dégage.
Voilà, voilà, voilà. Donc, dernière partie de l'émission. Nous sommes toujours donc sur le parvis devant une image à l'endroit exact où les tombés du 9 novembre 1932 ont été assassinés par la troupe qui était commanditée par le Conseil d'État Genevois en 1932. Nous sommes en compagnie de Pablo Cruchon. Bienvenue à toi.
Merci.
Alors, tu es parmi les personnes qui organisaient ces festivités, cette commémoration, peut-on dire. Tu as différentes casquettes. Hein. Tu es notamment membre de Solidarité, mais pas que. Tu fais partie d'autres associations. Et j'imagine qu'effectivement, l'antifascisme, pour toi, est une valeur centrale, une parmi les valeurs centrales qui t'habitent.
Oui, tout à fait. Je pense que la question de l'antifascisme, c'est un courant qui traverse et qui continuera de traverser les luttes des travailleurs et des travailleuses. Et je pense que c'est quelque chose qui est important parce que on a perdu un peu la mémoire des luttes antifascistes. Ouais. Parce que le fascisme apparaît dans des périodes historiques quand même bien déterminées et se retrouve être l'allié notamment de la bourgeoisie très fréquemment dans les luttes. Pour s'opposer, disons, à l'émancipation de la population, de la majorité de la population, et notamment des travailleuses et travailleurs. Donc je pense que, évidemment, la question du fascisme ou de l'antifascisme, elle est structurante dans le mouvement des travailleuses et travailleurs, et doit être rappelée, et je pense que la commémoration du 9 novembre a ce rôle-là, de rappeler qu'en période de troubles sociaux, en période de moments de revendications importantes de la part des travailleuses et travailleurs, il faut se méfier des mouvements fascistes et de la connivence avec la bourgeoisie parce que s'ils doivent faire alliance, ils le feront pour protéger leurs intérêts.
Ils l'ont fait, ils le referont effectivement. Alors nous sommes réunis ce soir justement sous le libellé, j'ai envie de dire, sous le libellé, se souvenir et agir. Alors justement, eh bien, comment est-ce qu'on se souvient du fascisme selon toi? Comment est-ce qu'on arrive à transmettre justement ce souvenir à des personnes qui ne l'ont pas connu, en tout cas celui que l'on entend en 1932? Et puis le deuxième volet de la question, c'est derrière, et comment est-ce qu'on agit pour contrer justement le fascisme selon toi?
Bon, ce souvenir du fascisme, c'est quelque chose de compliqué en Suisse, parce que disons la Suisse, elle a construit un mythe historiquement d'îlot au milieu de l'Europe qui a résisté face à Hitler, face à d'autres, et sans parler des collaborations profondes avec les régimes fascistes ou nazis, etc. Donc il y a vraiment le mythe en Suisse de dire nous on n'a jamais trompé dans ces trucs, ça ne nous concerne pas vraiment, c'est dans les autres pays, en Italie, en Allemagne surtout, que ça a eu lieu. Alors je crois que c'est complètement faux, et d'ailleurs il y a eu des groupes fascistes très très forts en Suisse. Il y a eu des relais pour les groupes fascistes italiens et allemands, et surtout la Suisse a joué un rôle. La Suisse, quand je dis la Suisse, c'est les entreprises suisses, le gouvernement, ont joué un rôle extrêmement important de collaboration avec l'Allemagne nazie, avec l'Italie mussolinienne. Donc c'est assez difficile de repenser notre relation au fascisme, puisqu'il n'a jamais été vraiment traité. On a vu, hein, le rapport Bergier, par exemple, avait suscité beaucoup de tollé en Suisse. On a un rapport à l'histoire, un rapport à ces mouvements-là qui est assez compliqué. Donc c'est une mission importante pour nous aussi autour de cette commémoration de rappeler qu'il y avait des mouvements fascistes agissant, qu'il y avait des mouvements fascistes qui prévoyaient la chute des gouvernements ici pour imposer une dictature fasciste qui, je rappelle, le gouvernement suisse même avait prévu le plan pour s'aligner sur l'Allemagne en 43, je crois, et avait prévu déjà en disant oui, il faut basculer vers l'Allemagne parce que ça, on n'aura pas le choix et que ça, c'est bien mieux pour le business. Voilà, donc il y a une difficulté de fond à se rappeler de ça, et c'est la mission de ces moments comme aujourd'hui de se rappeler. Maintenant, agir contre le fascisme, je crois que d'abord ça passe. Actuellement, on n'a pas de mouvement fasciste important en Suisse. On a des groupuscules fascistes, on a des petits jeunes et des moins jeunes, mais disons, qui se mobilisent, qui essayent de percer, mais ça perce, ça traverse pas. On a par contre un premier parti en Suisse, UDC, qui est un parti xénophobe, raciste, et qui alimente massivement, et qui décomplexe la parole de ces petits groupes fascistes, et qui a des liens aussi avec ces petits groupes fascistes à plusieurs reprises. En tout cas, en Suisse alémanique, on voit l'UDC a des liens très clairs avec un certain nombre de groupuscules fascistes, ou disons avec l'extrême droite et la fascosphère européenne importante. Donc il faut lutter contre l'UDC, contre la xénophobie, contre le racisme, et il faut lutter contre les dégradations de conditions de vie de la population, parce que disons, le fascisme, on voit bien, il a pris aussi naissance
dans la dégradation massive des conditions de vie. Dans les années 30, c'était le krach boursier, et ça a dégradé la condition de vie. Et en l'absence d'alternative politique sur la gauche, crédible, d'espoir de construction d'une alternative politique, des gens se sont tournés vers le fascisme. Et donc, je pense qu'on doit à la fois lutter contre la xénophobie et le racisme, et à la fois contre, disons, les politiques néolibérales qui détruisent les conditions de travail, qui détruisent les solidarités entre les gens, et ce genre de choses.
D'accord. Écoute, comme on arrive doucement déjà au terme de cette émission, puisqu'il nous reste 4-5 minutes, j'aimerais juste, pour cette fois-ci, encore une petite question pour toi. Et puis si autour de nous, une question surgirait, il y aurait encore le temps pour ça. Selon toi, est-ce que nous avons justement, tu l'as déjà un petit peu, tu as déjà répondu un peu, en ébauché la réponse en tout cas, mais selon toi, y a-t-il des héritiers ici à cette figure tutélaire horrible de Georges Ultramar? Tu as parlé de petits groupuscules. On peut dire que Genève non conforme a disparu, même, on pourrait dire, mais y a-t-il quand même un petit réseau qui se développe? Alors ça, c'est la première partie de la question. Est-ce que selon toi, à Genève, il y a une forme d'organisation, de réseau, de rhizome et du coup de danger concernant ceci? Et est-ce qu'à Genève, tu sens qu'il y a quand même une alerte antifa qui est présente, une riposte qui est présente? Je veux dire, Soral n'a pas pu faire ses conférences ici. Il y a quand même des signes qui sont rassurants. Qu'en dis-tu?
Oui, je pense qu'effectivement, on a vraiment une droite fasciste ou une extrême droite dure en Suisse, en tout cas à Genève, qui est très très faible actuellement. C'est des petits groupes. Il y a eu Renaissance Helvétique, il y a eu un certain nombre de ces petits groupes qui essayent de se constituer, qui essayent de réseauter, qui ont plus de relais au niveau européen qu'au niveau suisse. Ils n'arrivent pas tellement à percer. Et je pense que ça, c'est dû à deux choses. Et c'était dû à la veille antifasciste et plus largement qu'antifasciste, disons, de mobilisation générale contre ces courants-là. Effectivement, tu parlais du cas Soral, c'est les mouvements fascistes, les mouvements autonomes et la gauche radicale genevoise qui se sont mobilisés pour empêcher ça. Mais ça n'explique pas tout. Je pense que ce n'est pas simplement parce qu'on est meilleur qu'ailleurs. Je crois qu'il faut être un peu modeste. Il y a des mouvements antifascistes très puissants aussi dans d'autres pays. Et pourtant, ça progresse. Et ça, je pense, c'est aussi parce que, disons, il y a une droite xénophobe en Suisse qui est extrêmement puissante. L'UDC, le MCG ici, qui est une droite populiste à tendance raciste, disons, en tout cas xénophobe, sur les étrangers, surtout les frontaliers. Ces gens-là occupent déjà beaucoup de terrain du point de vue, disons, de la construction d'un langage et de la construction d'une exclusion. Et je pense qu'ils coupent un peu l'herbe sous les pieds en partie de ces petits groupes qui pourraient, disons,
surgir
si y avait, ouais, ils pourraient se saisir du mécontentement des gens. Et ouais, là, c'est vachement utilisé, bah, ici à Genève par le MCG, mais en Suisse par l'UDC de manière très forte. Ouais. Je veux dire, quand on voit un Oskar Freisinger, il a des liens avec toute l'extrême droite européenne, etc. Pourtant, lui, il est dans le premier parti de Suisse. Donc, je crois que le terrain, disons, est vachement occupé par une droite institutionnelle à caractère extrêmement raciste.
Ouais, tout à fait. Alors, je me tourne vers nous. Y a-t-il une question pour en terminer avec Pablo Cruchon ce soir ou pas? Philou, une question?
Non, pas vraiment une question.
Une remarque. Ouais.
Allez. C'est-à-dire que le printemps prochain, c'est les élections ici à Genève. Et bon, personnellement, je suis comme beaucoup, je pourrais bien me passer de politique. C'est pas une nécessité, ça fait partie donc du système, etc. Donc on se veut anti-système. Mais là, dans l'urgence, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine d'aller voter. Ça vaut la peine de faire barrage à cette droite populaire, à cette droite qui a quand même une des connivences avec l'extrême droite, avec le fascisme. C'est une droite qui est soutenue par les fascistes. De toute façon, quand on voit sur les réseaux sociaux, on voit les commentaires et tout, c'est toujours du même acabit. Donc là, nous avons Pablo qui se présente à ce printemps. Je pense que ça vaut la peine, même parmi les anards et parmi tous ceux qui sont anti-système, de se mobiliser exceptionnellement, je dirais, et de manière urgente. C'est un petit peu comme amener de l'eau pour les pompiers, quoi. Il y a le feu et puis il faut l'éteindre, quoi. C'est point barre.
Oui, tout à fait. Pablo va répondre.
Ouais, si je peux me permettre, d'abord, merci. C'est gentil. C'est sympa. Mais je crois qu'il ne faut pas il ne faut pas personnifier la politique. C'est pas parce que je me présente que ça a un intérêt. Je pense que ça, il faut plutôt réfléchir comment c'est des opportunités pour faire de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire pas forcément en termes carriéristes ou institutionnels du terme, mais comment on peut faire bouger les rapports de force, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est comment on peut se réapproprier la ville, comment on peut lutter pour que la critique à la masse prenne de l'ampleur, comment on peut lutter pour que Malagnou soit sauvé, comment on peut lutter pour que les travailleurs soient respectés sur le lieu de travail. C'est ça qui nous intéresse. Et disons, l'analyse que nous on a fait à Solidarité et qui fait que je suis candidat, c'est qu'on doit profiter de ces espaces que sont les élections pour parler de ces choses-là, pour envahir l'espace médiatique et politique avec ces thématiques-là et nous imposer ça. Mais ça, ça présuppose, moi, disons, ma candidature, elle pourra être utile que si je suis en lien avec des luttes, si je suis avec les gens, si on se met ensemble, qu'on se bagarre dans la rue, qu'on va, qu'on manifeste, qu'on revendique, qu'on occupe et qu'on exproprie, que tout ça. Et je pense c'est que par là qu'une candidature, entre guillemets, comme ça, elle peut être utile. Sinon, elle ne sert à rien. Et sinon, moi, je fais autre chose. Il y a plein de combats à mener. Ma candidature, elle doit essayer d'ouvrir un espace, à mon avis, où on se saisit, où on fait de la politique, mais on fait de la politique pas institutionnelle, on fait de la politique dans la rue, et que l'avantage des élections, c'est que les médias, ils regardent ce qu'on fait.
Et oui, et ça fait un focus.
Ça fait un focus, et oui. C'est à ça que ça doit servir. Et j'espère, humblement, j'espère vraiment que la candidature au Conseil d'État, elle permet de faire ça, elle permet d'ouvrir un tout petit peu le champ, et de voir que, voilà, on était 2000 dans la rue pour réclamer la ville, elle est à nous, elle n'est pas aux bourgeois, elle n'est pas aux enseignes riches, elle n'est pas aux riches étrangers, non, elle est à nous, c'est à nous qui devons l'occuper. Enfin voilà, ces combats-là, j'espère, avec les migrants, avec tous ces gens-là, j'espère que ça sera l'occasion, disons, de faire émerger ces luttes-là un tout petit peu dans des campagnes qui, en gros, en général, se font entre deux gestionnaires, un PLR et un PS. Et puis, je trouve que c'est assez peu intéressant de savoir qui c'est qui va gérer la ville. Ce qui est intéressant, c'est quelle lutte va avoir lieu dans cette ville.
Dernière question, Emmanuel, Dionat, qui est également... Toi, tu es PS.
Moi, je suis PS et je suis vraiment aligné sur les positions de Pablo. 99% des cas, voire 100% des cas, je pense que c'est vraiment important d'avoir un front commun de la gauche et des progressistes contre l'extrême droite fasciste, contre l'alliance qu'a très bien décrite, qui ressurgit dans l'histoire entre la bourgeoisie et les fascismes. Il y a un énorme travail de mémoire qui doit encore être mené dans toute l'Europe. Donc la Suisse, on n'a pas d'avance, mais il faut voir aussi qu'en France, ils ont mis énormément de temps à regarder leur passé en face, que dans les années 90 pour la France, par rapport à l'occupation. En Italie aussi, c'est la catastrophe. On trivialise les années fascistes. En Espagne aussi. Je pense que c'est vraiment important qu'on puisse, les forces de gauche progressistes, véritablement progressistes, qui ne sont pas teintées de compromission, qui n'ont pas de volonté de faire de la politique purement gestionnaire, qu'on s'allie pour défendre les travailleurs, défendre les migrants, défendre toutes les minorités qui sont menacées. Et moi, je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que on a Trump, on a Erdogan, on a Netanyahou, on a Hofer, on a Orban. On est entouré par une extrême droite fasciste qui a des relais parmi la bourgeoisie exploitrice. Et donc, c'est seulement en s'alliant toute la gauche et avec les forces progressistes du centre qu'on peut vraiment espérer ne pas retomber dans les tragédies qu'on a vécues au XXe siècle, dans les persécutions, dans la destruction de tout projet social progressiste.
Ouais, merci beaucoup. Effectivement, le champ des luttes est innombrable. Hein, et pour en conclure, justement, Pablo, à toi la parole.
Oui, je voulais venir sur l'idée, je partage en partie, et après, il faut faire attention, parce que, disons, Erdogan, Orban, ça ne sont pas tous des fascistes, ils ont des tendances fascistes, ou certains ne le sont pas, sont des néolibéraux, réactionnaires, etc. Donc il faut faire un tout petit peu attention. Mais
ils sont aussi relayés par les médias, et ça c'est un gros problème. La propagande qui est à la base des régimes autoritaires.
Ça c'est des sujets sur lesquels on reviendra lorsqu'on aura le temps,
Il y a des régimes autoritaires, etc. Après, le caractère fasciste est encore quelque chose de spécifique, disons. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, ici à Genève, disons, on n'a pas de menace fasciste. On a une menace très claire, identifiée. C'est celle de la droite et de l'extrême droite qui fait alliance dans ce Parlement et qui casse les services publics, qui casse les conditions de travail, qui casse les logements en construisant de la PPE, etc. Qui fait cette offensive-là. C'est une offensive, concrètement. Ils transforment notre ville, ils transforment nos espaces en produits commerciaux. Et nous, on reste sur la paille et on n'a que dalle. C'est ça la question. Donc, nous, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne dis pas que les élections, c'est du tout le meilleur moyen de changement social. Je ne dis absolument pas ça. Mais je dis que c'est un des espaces. C'est un des espaces, comme les manifestations sont un espace, c'est un des espaces. Et là, l'espace, l'enjeu, il est très simple. Je vais résumer tout ça. Si on fait basculer cette majorité à gauche, on aura un tout petit peu plus de souffle pour nos luttes. Tout petit peu plus de souffle. Et je pense que ça vaut déjà la peine.
Après, ça vaut déjà la peine, effectivement.
On verra bien.
Ouais, tout à fait.
De toute façon, ça, c'est la mobilisation sociale qui changera les choses. Ça ne sera jamais, jamais, jamais un Parlement.
On est d'accord sur ce point, en tout cas. Merci beaucoup, Pablo Cruchon. Merci beaucoup, Emmanuel Donna. Philou, merci à toi.
Et bien, merci à toi.
Avec beaucoup de plaisir. Et puis, nous, on rend immédiatement l'antenne et on se retrouve pour notre direct habituel du samedi. Samedi prochain, ce sera de 14 à 17h depuis l'espace quartier 99 qui fête ses 10 ans. Alors là aussi, c'est la conquête des habitants sur un espace qui était normalement dédié au commerce, et bien qui a été réapproprié par les habitants et dans lequel maintenant plus de 40 associations de la société civile pratiquent l'entraide, pratiquent la solidarité, pratiquent l'empathie de manière très concrète. Voilà, on se retrouve samedi et d'ici là, les podcasts, etc. se trouvent sur le site www.libradio.org. Merci à Fréquence Banane, Genève Lausanne, ciao.